Alors bonjour à tous les quatre, bienvenue au sein des locaux d'LFM Radio, je vous reçois ici, je vais d'abord vous laisser vous présenter chacun à votre tour pour nos auditeurs et auditrices.
On va laisser Xenia se présenter.
Je m'appelle Xenia, je suis ukrainienne mais j'habite en France. Et probablement c'est la raison pourquoi je suis ici, parce que vous connaissez bien qu'il y a la guerre en Ukraine et c'est pas possible juste être à côté de tout ça.
D'accord. Faut pas taper sur la table. Il y a pas de souci. À côté, du coup.
Eh bien bonjour. Donc déjà merci de nous recevoir. Donc je m'appelle Cédric Lemaine. Xenia est mon épouse. Donc moi je suis français, mais je suis du coup également concerné par ce qu'il se passe en Ukraine. Et donc bon, je pense qu'on pourra peut-être en parler par la suite de notre association qui a été créé dans le but justement d'aider, de fournir un soutien aux populations locales en Ukraine.
Je vous remercie.
Voilà, donc je suis Marie-Hélène Lopez-Jolivet, donc de Vernouillet, et je suis très, très sensible à ce qui se passe en Ukraine, à la souffrance du peuple ukrainien, horriblement attaqué par la Russie de Poutine. Et face à ce drame, en fait, avec un certain nombre d'amis, nous avons souhaité nous mobiliser pour être utiles et rendre service aux Ukrainiens directement en Ukraine.
Je vous remercie. Enfin, pour terminer, monsieur.
Oui, Jean Lubineau. Bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis citoyen de cette terre et de ce pays, et en même temps sensible évidemment à tout ce qui se passe, à l'actualité, et désireux de pouvoir effectivement rendre service, aussi minime soit ce service, pour essayer d'aider.
Je vous remercie à tous les quatre pour vos présentations. Je vous reçois du coup ici dans nos locaux d'LFM Radio concernant un voyage, mais c'est pas réellement un voyage par rapport à l'actualité. Une tonne de dons qui a été remis par les habitants de Vernouillet et Triel-sur-Seine. Au tout début, c'est parti depuis quand vous avez eu cette idée justement de faire cette collecte de dons-là?
Alors en fait, ça a commencé pour nous dès les premiers jours de la guerre en fait. Tout simplement, dès les premiers jours, ma belle famille a été bombardée en Ukraine. Donc on s'est immédiatement demandé comment on allait pouvoir les aider eux. Et par la suite, on s'est aperçu qu'on se devait d'aider également les gens qui vivaient avec eux autant que possible, autant que faire se peut à notre mesure. Donc moi et mon épouse, nous avons commencé à envoyer du matériel médical, humanitaire de manière générale en Ukraine, dans la région donc, où nous avions des contacts. Et suite à ça, nous avons également créé une association pour encadrer un petit peu tout ça. Je tiens à dire qu'on a également eu le soutien de la mairie de notre ville de résidence, Triel-sur-Seine. Et donc nous avons pu continuer à envoyer de l'aide pendant les semaines de la guerre qui ont suivi.
Sur le nom de l'association, c'est Protéger, Sauvegarder, Développer, c'est ça?
C'est ça, voilà, tout à fait. C'est le nom de l'association que nous avons créé donc, il y a quelques semaines.
D'accord. Et au sein de cette association-là, il y a déjà combien de membres qui en font partie?
Très peu, on est une demi-douzaine, pas plus. On est juste en fait le nombre nécessaire pour encadrer. Après, on a surtout des volontaires qui nous aident pour les opérations de collecte de matériel ou les différentes opérations en fait qui nous permettent de récolter soit des fonds, soit du matériel que nous envoyons justement en Ukraine.
Déjà une douzaine, c'est déjà pas mal. Hein. Pour une association qui vient de se lancer, c'est déjà pas mal. Par rapport aux collectes de dons, qu'est-ce qui est recherché en particulier sur ces collectes-là?
Alors, si on reprend aussi l'histoire de cette expédition, de ce co-voyage, en fait, avec Jean-Lu, on a souhaité soutenir l'association présidée par Cédric et puis par Xenia, parce que l'idée, c'était d'envoyer un plus gros volume de collecte, parce qu'ils acheminent toutes les semaines la collecte qui se fait au fil de l'eau. Mais là, on a soutenu une collecte beaucoup plus importante. et on a mis à disposition, on a loué une camionnette. Et donc, je voulais aussi remercier les loueurs de voitures qui nous ont fait des réductions. Et on a lancé une cagnotte carburant parce que ça coûte très, très cher d'aller en Ukraine. Et grâce à ça, on a pu aider l'association pour envoyer un plus gros volume en acheminant nous-mêmes la collecte en Ukraine. Donc c'était l'idée qui nous a motivés avec Cédric et d'autres, parce que en fait, vous laissez remercier toutes les personnes qui nous ont aidés grâce à ces dons pour le convoyage qui a été quand même une grande expédition et qui nous a permis de livrer 7 tonnes de collecte.
Dans ces 7 tonnes-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? C'est des médicaments notamment, il y a des vêtements, il y a de la nourriture, qu'est-ce qu'on peut retrouver ?
Une précision, c'est 7 tonnes, c'est une tonne en fait. Il y a une tonne de transportée par ce biais, sachant qu'auparavant, par les divers voyages qu'on faisait, en utilisant des transports qui faisaient des allers-retours en Ukraine, ouais. Les transports commerciaux, on avait déjà livré à peu près une tonne aussi, mais étalé sur un peu plus d'un mois.
D'accord, ok.
Et donc pour répondre à votre question, donc ce qu'il y avait dedans, c'était beaucoup de matériel médical, de la nourriture également, de la nourriture non périssable, bien entendu, du matériel de camping, entre guillemets, de outdoor, entre guillemets, pour l'armée.
Oui. Pour des produits d'hygiène,
voilà, tout à fait, à la fois pour l'armée, pour les réfugiés également.
Mm-hmm. Pour les animaux.
Et il y a aussi, voilà,
c'est ça, c'est Médor et Mistigri, hein. c'est une association villénoise.
Tout à fait, c'est ça qui, je ne vous cache pas qu'au début, on ne pensait pas prendre de la nourriture pour les animaux, on pensait se concentrer sur l'aide aux humains, mais des échos qu'on a eus de là-bas, c'était assez terrible, sans rentrer sur les détails. Qui sont parfois assez glauques. Il y a dans les faits, il y a les abris pour les animaux qui sont débordés, qui reçoivent des animaux qui ont été soit dont les maîtres ont été tués, soit les maîtres ont dû s'en séparer parce qu'ils fuyaient au plus vite les combats. Donc, au final, on s'est dit que ce serait une bonne chose aussi d'apporter de l'aide pour ces animaux.
Donc sur la collecte des dons, c'est aussi bien les villes, je crois que j'avais vu qu'il y avait aussi Andrézy, donc Vernouillet, Triel-sur-Seine. Mm-hmm. Il y a aussi des pharmacies, c'est ça, des infirmiers également. On a tout le monde, c'est ça.
Oui, la collecte, elle a été très largement diffusée. Et effectivement, c'est toute une chaîne qui s'est mise en place pour nous déposer des dons et on a eu aussi le soutien et le relais des mairies. Donc c'est vrai que la mairie de Triel-sur-Seine et le maire Cédric Aoun soutiennent beaucoup ces initiatives, mais on a eu aussi le soutien de la mairie de Vernouillet, notamment du CCAS de Vernouillet qui s'est mobilisé en nous donnant pas mal de dons, et aussi des particuliers et un commerçant aussi de Vernouillet, le Petit Casino, que je cite parce qu'ils sont absolument déterminés et aidants sur la cause ukrainienne. Si on reprend les besoins maintenant pour qui sont prégnants et vraiment urgent, parce que Xenia, qui est en lien évidemment journalier avec la ville de Tcherkassy, qui est le site sur lequel l'association œuvre, en fait, il y a quatre grandes directions, quatre grands besoins, en fait. C'est les hôpitaux, les réfugiés intérieurs, qui sont nombreux et qui arrivent à Tcherkassy. L'armée aussi qui a des besoins particuliers évidemment et puis les animaux on les a cités et donc on va faire appel très précisément auprès, on va continuer nous à soutenir et puis l'association elle a ciblé ces quatre grands domaines pour faire appel à du soutien, à des dons.
C'est ça, parce que là l'élan de générosité, vous l'avez vécu comment? Il est énorme, j'imagine.
Il est énorme, surtout au départ. Après, je ne vous cache pas, c'est tout à fait compréhensible. Il y a une certaine lassitude, entre guillemets, des gens. Puis les gens ont déjà donné au début, donc les gens ne peuvent pas forcément donner tout le temps. Voilà, ce que je comprends tout à fait. Mais on insiste bien sur le fait que notre action doit être pérenne parce que les besoins là-bas continuent d'être énormes. Marilène parlait des réfugiés qui arrivaient dans la région de Tcherkassy. Ils en reçoivent à peu près 3000 par jour, 3000 réfugiés qui viennent parfois même de villes qui ont été rasées, comme Mariupol, qui ont connu des horreurs absolument ignobles. Et donc l'effort doit se pérenniser, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, c'est d'essayer de continuer à mobiliser les gens pour continuer à soutenir les gens qui sont en difficulté en Ukraine.
Justement, du coup, j'aimerais qu'on parle maintenant de votre périple assez long. C'est combien ? On est sur 4000 km, j'ai regardé un peu sur Internet, on est autour de ça.
C'est ça, ouais.
Ça a pris combien de temps sur cette durée-là ?
On a fait 4000 km en 3 jours.
D'accord, en 3 jours.
Alors, on a fait une halte à Cracovie, en Pologne, où un contact là-bas nous a très gentiment hébergé. Et donc on a mis une journée pour aller là-bas, ça faisait presque près de 2000 km, 18 heures de route en gros. Le lendemain, on a franchi la frontière, on a fait l'aller-retour, donc ce qui a été assez long et laborieux aussi, parce qu'il y avait des colonnes de réfugiés de chaque côté sur les kilomètres. Alors fort heureusement, l'aide humanitaire était prioritaire, donc on a pu passer relativement vite. Ça n'a pris qu'une dizaine d'heures pour faire l'aller-retour, ce qui est assez rapide dans ces
justement,
conditions.
C'est ce que j'allais vous demander, comment ça s'est passé une fois la frontière passée, quand vous avez commencé, ça s'est passé comment, vous êtes passé la frontière, vous vous êtes arrêté quelque part, vous avez donné, vous êtes reparti tout de suite, ça s'est passé en combien de temps à peu près ?
C'est ça, on avait des contacts qui nous attendaient, des contacts des chauffeurs en fait, mis à disposition par les autorités de la région de Tcherkassy, qui nous attendaient de l'autre côté de la frontière, donc on a fait peut-être un kilomètre à l'intérieur du territoire ukrainien, on s'est arrêté à une station service. On a transvasé transbordé le chargement. On a discuté 5 minutes ensemble et puis après, ils sont partis vers Tcherkassy. Et nous, on a repris le chemin du poste frontière, mais dans l'autre sens.
Ce qu'il faut se rendre compte, c'est de la grande difficulté de passer cette frontière et donc de l'importance de passer de l'autre côté pour nous. Parce que les hommes qui viennent de Tcherkassy ne peuvent pas passer la frontière. Il y a une impossibilité légale puisque il y a une loi évidemment militaire qui leur interdit de passer la frontière. Mais en plus, pour eux, de passer la frontière, ce serait presque 2 ou 3 jours d'attente. Ce sont des files, des kilomètres dans les deux sens, hein, tant pour rentrer que pour sortir, de camions, de voitures de particuliers, qui rendent le passage de la frontière très difficile. En plus, il faut dire que la Pologne, qui assure l'entrée sur le territoire de l'Europe, est assez tatillonne aussi pour les procédures administratives d'entrée. Et on rentre aussi dans un pays en guerre. Donc d'un côté comme de l'autre, c'est assez complexe. Donc l'idée de passer la frontière, c'était un vrai plus par rapport à l'aide humanitaire, parce qu'elle permettait ce transfert plus facile qu'à l'inverse, les hommes n'auraient pas pu passer la frontière, effectivement.
Donc justement, pour passer cette frontière, vous l'avez dit, en amont, vous aviez des contacts déjà sur place pour permettre ce passage-là. Comment ça s'est passé plus dans le détail ?
Oui, tout à fait. Oui. Mais en fait, c'est un petit peu ce qui nous a permis d'être assez efficace depuis le début, c'est que mon épouse Xenia a des contacts dans sa ville d'origine. Que ce soit au niveau de la ville ou au niveau du conseil régional de la région, donc de l'oblast de Tcherkassy. Donc on a pu avoir des gens qui viennent récupérer l'aide humanitaire que l'on envoie, qui franchit la frontière et qui la ramène donc à Tcherkassy. Donc pour situer un petit peu Tcherkassy, c'est en plein centre de l'Ukraine, c'est au sud de Kiev. C'est pas une région donc qui a connu des combats, qui connaît quand même des bombardements. Hier encore, ils ont été bombardés. Mais c'est surtout une zone de forte tension humanitaire parce qu'ils reçoivent énormément de réfugiés.
C'est une sorte de hub de réfugiés internes, d'où les grands besoins.
Maintenant, chaque région Ukraine a son rôle spécifique. Et Tcherkassy, région de Tcherkassy, c'est maintenant comme région de transit pour récupérer tous les réfugiés et pour aider pour tous les gens blessés, tous les soldats et tous les
D'accord, donc c'est cette région-là, les dons arrivent ici et après ils dispatchent dans le besoin, c'est ça?
Il y a des réfugiés qui arrivent et c'est nécessaire d'occuper des gens. Il y a des soldats blessés qui arrivent et c'est nécessaire de soigner des gens. Et bien sûr, s'il y a quelque chose que Tcherkassy peut redonner pour autre région, ça va aller et c'est plus efficace parce que c'est comme, comment ça dire, c'est transport... et la route connue.
D'accord.
C'est plus facile d'envoyer quelque chose de Tcherkassy à Kiev que, par exemple, Paris à Kiev.
Mmh. Ok, d'accord.
C'est des locaux, ils connaissent déjà bien les circuits. Ils ont aussi des facilités un peu sur les passages des postes, des postes frontières, des checkpoints. Ils sont un peu partout.
Justement, sur les donations, après, une fois qu'ils sont distribués, vous avez des retours, vous avez des photos, des vidéos, comment ça se passe?
Bien sûr, on connaît bien chaque organisme qui peut recevoir aide, par exemple l'hôpital pour les enfants, l'hôpital régional, tout ça. Et on a toutes les photos, toutes les commandes de gens qui reçoivent aide. Donc, je pense que oui, on peut... Oui, on connaît tout le monde.
C'est ça, voilà, vous savez vraiment où vont vos dons une fois la frontière passée.
Tout à fait, et puis ces photos, on essaie autant que possible, autant que le temps nous le permet, de les mettre à disposition des gens, parce que les gens aiment avoir ce lien, je pense, direct, enfin, de voir les gens, le résultat de leur action concrète, en fait. Et puis aussi, je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui nous ont dit clairement qu'ils avaient des craintes de savoir où allait l'aide, en fait. Et parce que bien entendu, comme dans toute guerre, il y a une partie de l'aide qui finira on ne sait où. Donc c'est aussi une bonne chose, je pense. Ça rassure les gens de savoir que leur aide est utilisée à bon escient et à ce qui était prévu initialement, et qu'elle arrive bel et bien à destination.
Mais il n'y a pas d'intermédiaire.
C'est ça, voilà, qu'il n'y a pas d'intermédiaire.
On amène l'aide directement aux gens qui en ont besoin.
Tout à fait.
Bien sûr, c'est très important. On a... Oui, si vous
voulez. Juste parfois, c'est très drôle parce que l'association qui occupe des chats à Tcherkassy, et il nous donne la liste du nombre de chats qui recevoir aide. Ouais, donc ça.
C'est sûr. On peut parrainer un chat.
C'est ça.
Presque. Si on peut repréciser les besoins qui ont été exprimés.
J'allais vous le dire juste après, mais sur pour la suite, est-ce que vous prévoyez déjà un autre convoi dans les prochaines semaines, prochains mois?
Oui, tout à fait, oui. Déjà, je tiens à dire qu'on continue notre action au fil de l'eau, entre guillemets, d'envoyer du matériel à peu près toutes les semaines, donc par des liaisons régulières avec l'Ukraine. Mais malheureusement, c'est en quantité assez limitée. Mm-hmm. Donc on essaie d'envoyer ce qui est le plus critique, notamment les médicaments, les produits médicaux. Mais effectivement, avec Marie-Hélène, Jean-Luc, tout le monde, on a déjà pour projet effectivement de refaire un convoyage en Ukraine. A priori d'un volume plus important, et donc à cette fin on est justement en train de rechercher du matériel à envoyer, donc notamment du matériel médical.
Alors justement, si vous pouvez faire la liste un peu de ce qui est demandé.
Oui, bien sûr. C'est un petit peu toujours les quatre axes dont Marie-Hélène avait parlé tout à l'heure. Donc il y a tout d'abord les hôpitaux, principalement. Comme disait Xenia, ils reçoivent beaucoup de blessés, et civils et militaires. Des soldats qui ont été blessés au front. Donc ils ont besoin de matériel médical, de soins d'urgence, mais également de matériel lourd, donc des défibrillateurs, par exemple, des respirateurs artificiels, ce genre de matériel. Là-dessus, je lance un appel aux hôpitaux de la région, s'ils ont du matériel qui n'est peut-être plus exploité, mais qui est encore en état de fonctionnement. Ça leur serait grandement, grandement utile, donc qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour effectuer un don à notre association et aux hôpitaux ukrainiens au final. Il y a donc également les réfugiés. Mm-hmm. Les réfugiés qui sont très nombreux, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de produits d'hygiène. L'armée, on essaie de l'équiper aussi, alors pas en armes bien entendu, pour ça les pays européens s'en occupent plutôt efficacement, mais pour du matériel médical, encore une fois, des trousses de premier secours, du matériel de premier secours, des bandages hémostatiques, des garrots, ce genre de choses, on en a envoyé beaucoup et on en recherche effectivement beaucoup. un peu de
matériel. Tout ce qui est camping.
Voilà, ouais. Tout ce qui est camping, en fait, matériel outdoor, des sacs de couchage, des tentes également.
Gilets pare-balles aussi.
On cherche des gilets pare-balles, on a réussi à en envoyer quelques-uns. Je ne vous cache pas que c'est la ruée dans tous les pays européens sur les gilets pare-balles.
Donc comment ça s'est passé de votre côté pour les obtenir, ces gilets pare-balles-là?
Il y a quelques armuriers qui en vendent, quelques vendeurs qui en vendent, c'est en vente libre, c'est un petit peu surveillé, heureusement d'ailleurs, par l'autorité, mais on peut en obtenir. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on était dans notre voyage en Ukraine, on avait rencontré un Écossais qui était venu avec un plein chargement de gilets pare-balles et casques balistiques. Qui avait été acheté par sa société, qui était en relation justement aussi avec des Ukrainiens, et donc il avait livré ça.
Et c'était des associations de chasseurs écossais qui s'étaient réunies pour lever une collecte pour ces casques et les gilets pare-balles.
D'accord.
Voilà, donc ça coûte assez cher, mais on a réussi à en envoyer quelques-uns quand même qui sont utilisés à bon escient. Donc voilà, et puis pour les animaux, pour finir également, de la nourriture, des produits de soins également. Voilà, principalement tout ce qu'on.
Pour les bébés également, il y a des besoins spécifiques en couches par exemple, et en alimentation particulière qui correspond aux besoins des nourrissons et des tout petits.
Voilà, et à noter également qu'ils ont eu beaucoup plus qu'habituellement, malheureusement, de prématurés. Et ils sont en recherche de matériel spécifique pour les hôpitaux sont à la recherche de matériel spécifique pour les prématurés.
D'accord. Dernière question pour les informations un peu complémentaires. Comment on peut vous contacter? Comment on peut vous faire ces donations-là? Ça se passe comment?
Eh bien, on peut contacter notre association. Nous avons une page Facebook. Donc vous recherchez l'association Protéger, Sauvegarder et Développer. Et vous pouvez nous contacter également par mail. Le mail, c'est
j'ai un mail devant moi, vous me dites si c'est celui-là. Alors, K-S-E-N-2-I.
Non.
Ah, c'est pas celui-là?
Non, je pense qu'il y a une coquille. Voilà, Xenia, c'est le prénom de mon épouse, mais il ne fait pas partie du mail.
D'accord, ok. Alors, pas celui-là.
juste après mon prénom.
Juste après le prénom, c'est info.psd.
Alors, info.psd.asso@gmail.com.
C'est bien ça, tout à fait.
C'est ça. D'accord, ok, super. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner également ou...
Oui, je peux donner le mien. Donc, c'est le 06 29 15 14 22.
Super.
Donc, pour les dons, n'hésitez pas à nous contacter.
Sans ça, il y a un dépôt aussi à Triel-sur-Seine. Donc, soit à la mairie, soit en contactant Cédric par message privé pour pouvoir livrer, si c'était des volumineux, sur un site que la mairie met à disposition.
D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin. C'est bon?
Non, ben il faut que l'aide continue régulièrement parce que les besoins sont immenses et la fraternité en fait qui s'est installée entre notre région et puis Tcherkassy, c'est des fils qui se tissent pour l'avenir et qui sont d'un soutien matériel, mais surtout moral aussi là-bas.
Super.
Et surtout, il n'y a que 2000 km pour y arriver, donc c'est pas loin, c'est tout près de nous.
Ça fait long et pas loin, effectivement.
Ouais. C'est important de le dire, c'est tout près de nous, effectivement. Merci à tous les quatre d'avoir posé la question.
Merci.
Merci.